Théologie en liberté. En rangeant ma bibliothèque. Au micro, Michel Jasse. En rangeant ma bibliothèque, eh bien, je range les livres de Pierre-Jean Ruff, des essais que j'ai toujours trouvés stimulants, très intéressants, des rééditions, des petits opuscules, des livres plus théologiques. Et nous allons parler ensemble du dernier livre de Pierre-Jean Ruff, « Jésus avant tout », avec son auteur, ici présent, mon ami Pierre-Jean Ruff. Bonjour.
Bonjour.
Eh bien, voilà, donc j'ai compté que... Donc, on se connaît depuis longtemps et j'ai beaucoup reçu de... Je te le dis chaque fois qu'on se voit, je te le redis, que j'ai beaucoup reçu de tes ouvrages.
Et réciproquement.
En fait, j'ai beaucoup reçu... Au début, je me souviens que dans la revue Évangile et Liberté, tu avais écrit des textes sur les cathares. Puis, tu as écrit un livre avec Anne Brenon sur le catharisme. Et puis... aussi en 2012, Souffle des quatre vents, ou sur l'esprit. Oui. Et vraiment, cet ouvrage que j'ai trouvé très intéressant, qui donne des perspectives théologiques, même si ce n'était pas forcément un travail exégétique pour des universitaires, etc. Mais ça donnait des perspectives pour le prédicateur que j'étais, le théologien en paroisse. Et puis... je te l'avais dit, j'avais beaucoup apprécié Un seul Dieu ou le problème du mal. Mais que tu abordes un peu dans plusieurs de tes livres, c'est un thème qui revient souvent, le problème du mal, et comment penser Dieu aujourd'hui vis-à-vis de cela. Et puis tu l'avais réédité, repris, un peu rédigé avec « Dieu veut-il le mal ?». Tu as écrit énormément de choses, des perspectives tout à fait intéressantes, un livre sur Marie de Magdala, un livre sur l'euthanasie. Christianisme et islam, etc. Ah, etc.
Oui, oui.
Et donc aujourd'hui, on est... Donc ça fait une à peu près 19 livres, 19 ou 20 à peu près.
Ah, je ne sais pas. Il me semblait moins, mais oui. Peut-être que je suis un mauvais comptable. C'est possible.
Non, mais moi, il me semble que ça fait 19.
Ah, bon. J'avais l'impression d'être un mauvais comptable. Bon.
Et alors voilà, maintenant tu nous proposes Jésus avant tout. Donc, on a l'habitude en théologie protestante de faire la distinction entre l'évangile du Christ par lui, ou alors l'évangile qui concerne le Christ, le Dieu révélé par la croix, etc. Eh bien là, tu vas parler de Jésus. J'ai beaucoup aimé que tu dises que c'est une prééminence et pas un exclusivisme.
Ben oui.
Voilà. Alors, Jésus avant tout, pourquoi et qu'est-ce que tu en dis ?
Alors, déjà le titre peut prêter à confusion et je m'en excuse, parce que de prime abord, on pourrait penser que c'est le titre d'un ouvrage qui véhicule la pensée des milieux protestants dits évangéliques.
Et oui, Jésus, Jésus, Jésus.
Voilà, Jésus, Jésus. Or, Jésus avant tout, ça signifie simplement... le message de Jésus, auquel tu as déjà fait allusion,
oui.
Ce qu'on appelait l'Evangelium Christi.
Christi.
L'évangile écrit par le Christ, ce qu'il propose lui, voilà. Le démarquer de ce qu'on appelait à l'époque aussi, par opposition, l'Evangelium De Christo,
oui.
À savoir ce que les commentateurs en ont fait par la suite, à commencer... par le premier des commentateurs, qui est l'apôtre Paul.
Qui est l'apôtre Paul. Donc l'évangile du Christ. Enfin, qui...
Voilà. Voilà. Alors, c'est une thématique... Bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est une thématique ancienne que les protestants libéraux ont souvent revendiquée, et pas que. Avant le protestantisme, même dans l'Église ancienne, ça a été souvent souhaité, promulgué ou revendiqué. Maintenant, faire passer le message de Jésus avant les commentaires qu'on a pu en faire, bon, c'est un choix. Et alors, évidemment, bon, ça distingue, ça presque oppose le message de Jésus, ce qui nous est communiqué dans les évangiles, du message de Paul qui est véhiculé au travers de ses épîtres.
Et quelquefois, donc, on a pris l'habitude dans le christianisme de lire les évangiles à partir de la grille de lecture paulinienne, ce qui force un peu la perspective.
Personnellement, j'ajoute, hélas, je le regrette. Voilà. Bon, maintenant, alors, j'ajoute quand même ceci. Je suis très pluraliste, donc je respecte les familles d'esprit, je respecte les discours religieux différents. De celui auquel j'adhère ou que je privilégie, bien, mais voilà, je reste quand même très respectueux tant que ce sont des opinions personnelles des uns ou des autres. Oui. Par contre, si c'est un message global qu'on voudrait nous imposer à ce moment-là, je ne peux pas en être, je m'y oppose, parce que dès qu'il y a, en religion et même en politique ou dans d'autres domaines, dès qu'on veut imposer un message global, ce qu'on pourrait appeler un prêt-à-porter, ben, c'est une façon aussi de dire, ceux qui ne rentrent pas dans ce moule-là, basta, on les met de côté, on les excommunie, ou je ne sais pas quoi. Bon, et je suis persuadé que ce n'est ni saint, ni ce que Jésus aurait imaginé ou promu, lui. Voilà.
Voilà, et j'entends dans ta façon de t'exprimer une pensée, la spiritualité du protestantisme libéral. Je n'ai pas dit aux auditeurs, mais il faut le rappeler, que tu as été pasteur dans plusieurs paroisses parisiennes qui sont connues comme des paroisses libérales et que tu as été un peu, tu as écrit sur le protestantisme libéral et tu es un peu une personnalité dans ce protestantisme libéral francophone.
Je vais quand même nuancer ton propos parce que c'est vrai, j'ai été pasteur d'une paroisse peut-être la plus libérale de France, qui est ce qu'on appelle le foyer de l'âme. Mais avant, j'ai été quand même pasteur, curieusement, à la paroisse de l'Étoile, où je n'aurais pas dû aboutir, d'ailleurs je le savais très bien. Ouais. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour ne pas être accepté par le conseil présidéral, mais ça n'a pas marché.
Bon, la paroisse de l'Étoile est devenue libérale depuis.
Elle est devenue libérale depuis, mais à l'époque...
Oui, c'est vrai.
Certains de mes prédécesseurs ont très très mal vécu ou accepté que j'y aille. Et moi, il me semblait bien que que j'étais pas la personne la plus idoine pour cette paroisse. Voilà.
Voilà. Et alors donc, on te remercie. Tu es Marseillais d'origine, Cévenol d'adoption.
Et de cœur.
Et en fait, tu as exercé à Paris et puis aussi dans les églises wallonnes de l'étranger. Tu as été
Un tout petit peu à Copenhague.
À Copenhague, voilà.
Mais quelques années. Bon, mais pour moi, personnellement, ça n'a pas été marquant. Oui. Bon, je dirais, ce n'est pas une étape importante. C'était une personne qui n'était pas du tout dans ce créneau libre de pensée. Bon, mais enfin, j'ai été pasteur comme ça.
Voilà, mais alors Jésus avant tout.
Oui, je dois dire, entre mes deux paroisses parisiennes, j'ai eu une paroisse de banlieue où j'avais des paroissiens de sensibilité très différente.
Ah oui.
J'avais des paroissiens très rigoristes.
Oui.
J'avais un de mes paroissiens qui me disait, monsieur le pasteur,
oui,
lorsque vous animez un culte, si vous ne lisez pas le symbole des apôtres, pour moi, le culte n'est pas valable.
Aïe.
Et si vous le lisez, je sais que vous le lisez par gentillesse et au égard pour deux ou trois personnes, mais que vous ne croyez pas à tout ce que vous dites, donc ça n'a pas de valeur non plus. Comment pouvez-vous sortir de ce dilemme?
Et oui, c'est très difficile.
Alors, pour la petite histoire, c'est un monsieur qui était donc très classique. Il arrivait au culte toujours avec 2-3 minutes de retard. Il ouvrait discrètement la porte du temple. Il regardait s'il y avait une femme qui animait le culte. À l'époque, il y avait moins de femmes animant le culte qu'aujourd'hui.
Oui.
S'il y avait une femme animant le culte, il refermait doucement la porte, il rentrait chez lui. L'apôtre Paul a dit, pas de femme.
Ah oui, il n'aurait pas pu être paroissien à Nîmes, parce qu'aujourd'hui, à Nîmes, nous avons la chance d'avoir trois femmes pasteurs.
Oui, ben je sais bien, mais nulle part. À Paris, c'est en train de devenir la même chose.
Hein. Oui.
Parenthèse fermée. Voilà. Mais bon, autrement dit, la théologie de Paul, d'abord, j'y adhère difficilement. Et je ne comprends pas très bien, parce que bon, Paul... Bon, c'est vrai, il n'a pas connu personnellement Jésus, sans doute.
Oui.
Mais il est, d'une part, il s'est dit disciple de Jésus.
Oui.
Il était contemporain de Jésus. Or, il ne cite jamais ni Jésus, ni sa vie.
Oui.
Il ne les commente jamais.
Oui.
Pour lui, c'est une page inexistante.
Oui, oui, c'est uniquement pour lui, c'est un messianisme à partir des écritures hébraïques et
voilà.
Avec le mystère de la mort et de la résurrection.
Voilà. Tout est axé sur
la mort et la résurrection.
Sur un sacrifice expiatoire.
Oui, oui, oui.
Il y a ça, et puis tout le reste autour devient évanescent.
Jésus n'est venu que pour mourir et ressusciter.
De quelque sorte, oui, c'est exactement.
Alors qu'il s'est exprimé, et en fait, c'est vrai que dans le protestantisme libéral, on aime bien dire qu'on veut comprendre ce que Jésus a voulu nous dire.
Cela dit, je peux te comprendre en son temps que Paul ait pu avoir ce discours ou cette pensée ou cette théologie, parce que pour l'époque, il y a 2000 ans, je comprends que les textes de référence, c'était quand même ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament.
Oui, oui, bien
et
sûr.
Qui était quand même tous assez axés oui. sur la notion de sacrifice.
Oui, oui. Mais c'est vrai que, bon, je crois que tu as raison de mettre l'accent, de dire, quand même, revenons à l'essentiel, ce que Jésus a voulu exprimer. Parce qu'en fait, dans les modes théologiques, alors tu dénonçais le symbole des apôtres, mais c'est vrai qu'on a dogmatisé énormément le christianisme.
Ben oui.
Ça devient un mystère très compliqué, avec des sacrements, oui. etc. Et puis aussi, dans le protestantisme, on a été très dogmatique. On a eu, après-guerre, la vague barthienne, où on insistait sur le Christ, de façon paulinienne.
Oui,
et dernièrement aussi, on a eu, avec la faculté de théologie de Montpellier, un peu un courant un peu luthérien, où on insistait beaucoup sur le Christ. Et là, je me souviens, je crois que je te l'avais dit, il y avait un de nos prédécesseurs, pasteur libéral, qui était à Montagnac, dans l'Hérault.
Ah, que j'ai bien connu.
Ah, tu l'as connu, oui.
Oh oui. Il me faisait venir chez lui. Je crois qu'il souhaitait que...
Que tu le remplaces.
Non, non, que j'épouse une de ses filles.
Ah bon.
Enfin, c'est une parenthèse.
Oui, et en fait, il avait mis... Quand il y avait des étudiants en théologie de Montpellier qui venaient prêcher dans sa paroisse, il avait mis un petit carton. Messieurs, pas de christomanie, je vous en prie.
Ah oui, je ne me rappelle pas.
Pour qu'on parle de Dieu
oui.
et puis de Jésus, l'enseignement de Jésus. Oui. Mais pas uniquement le mystère.
Oui. Alors aujourd'hui, c'est très curieux parce que nous sommes dans l'Église réformée.
Oui.
Le pluralisme théologique est quand même un des fondements de l'Église réformée.
Oui.
Bon, et je connais plusieurs jeunes collègues, plutôt d'ailleurs des femmes.
Oui.
Qui tiennent à faire régulièrement réciter par toute l'Assemblée le symbole des apôtres, tous les dimanches.
Oui, oui.
Bon, c'est pas très méchant, mais c'est déjà un peu quand même une porte ouverte sur un classicisme que, pour ma part, je ne cautionne pas.
Surtout qu'au XIXe siècle, il y avait une liturgie protestante pour les églises, les paroisses du centre-ville.
Ouais.
Enfin, c'était le petit temple, l'oratoire, le grand temple, qui était édité à Nîmes. Et on mettait le symbole des apôtres entre crochets. Et en note, on mettait, et il était évident que les pasteurs libéraux ne liront pas le symbole dit des apôtres.
Ah oui, bien sûr. Ouais.
Voilà. Très bien.
Voilà. Thank you.
Ici Radio Alliance Plus, Théologie en Liberté, 103.2. Michel Jasse au micro, je suis avec Pierre-Jean Ruff et nous parlons de son dernier ouvrage, Jésus avant tout. Bon, donc en fait, c'est derrière ton intérêt pour revenir à la source de notre foi, l'enseignement de Jésus, tu contestes et Paul, un peu la théologie sacrificielle de Paul, et la théologie très, le symbole des apôtres tourne autour de la mort et la résurrection. On dit pas dans le symbole des apôtres que Jésus a enseigné.
Je vais quand même plus loin.
Oui.
Bon, si on lit bien les épîtres de Paul, je lui fais pas le grief. Il a pris à son compte toutes les coutumes de l'époque, sans grand discernement spirituel, me semble-t-il. Bon, il est normal que les femmes s'écrasent. Il est normal que l'homosexualité soit une abomination. Il est normal qu'on soit toujours hyper dépendant, respectueux, obéissant aux autorités en place, quel que soit leur calibre. Hein.
Oui.
Il est normal que les serviteurs et les esclaves obéissent à leur maître et ne cherchent pas à s'évancer. Bon, tout ça, c'était le contexte culturel de son époque.
Oui.
Mais, moi je dis, Jésus, comme tous les grands maîtres spirituels, n'ont jamais été dépendants, cultures de leur temps.
Et bien sûr.
Ah, Paul et peut-être d'autres disciples facilement s'inscrivent dans leur temps. Je crois qu'on ne peut pas leur en faire le reproche, mais on n'est pas sur le même niveau de spiritualité.
Ah, c'est ça, oui. Et d'ailleurs, tu dis dans ton ouvrage que, en fait, il y a eu une proximité de Jésus avec des apôtres femmes, avec la personnalité de Marie de Magdala. Et en fait, alors que ce ministère féminin a été complètement freiné par la théologie de Paul.
Oh, je ne sais pas si c'est la théologie de Paul ou c'est peut-être la culture ambiante aussi.
Oui, voilà.
Il n'y a pas que Paul. Hein. Bon, mais
Paul ne parle pas de Marie de Magdala.
Voilà. Alors,
Marie-Madeleine.
Voilà. Les quatre évangiles nous disent qu'elle a été premier témoin de la résurrection, qu'elle a été chargée par le Christ ressuscité de remonter le moral des apôtres qui étaient en berne. Bon. Et Paul l'ignore totalement, il écrit simplement, il dit, lorsque le Christ ressuscité est apparu premièrement à Pierre, ensuite aux 12, il n'y a pas une seule femme là-dedans.
Ah oui, oui.
Bon,
oui.
Or, et j'ajoute aussi, bon, en tant que disciple de Jésus, même si, et contemporain de Jésus, c'est impensable qu'il n'ait pas entendu parler de la place ou de l'importance de Marie-Madeleine.
Ah oui, d'accord.
Il en a sûrement entendu parler, et volontairement, il a squeezé. Alors, je rajoute, dans les écrits, non pas les évangiles, mais dans les écrits apocryphes dits gnostiques, les écrits gnostiques nous disent très clairement que, premièrement, le christianisme a été au départ très divers et sans doute conflictuel, ce qui est normal puisque Jésus n'a laissé aucune indicative ce qu'il fallait faire après. Et donc, il n'y avait aucune indication sur après. Et par contre, c'est vrai que les écrits chrétiens gnostiques, entre autres, nous disent parmi les oppositions au courant dominant chrétien de l'époque, il y a eu les gnostiques, dont les deux leaders, d'après ces écrits, étaient le disciple Jean et Marie-Madeleine.
Oui.
Et ces écrits nous disent aussi qu'il y a eu à l'époque un conflit important entre Pierre et Marie-Madeleine, une espèce de conflit des chefs.
Oui, c'est quand même assez crédible, quoi.
Que Pierre a sans doute remporté, entre autres parce que Marie-Madeleine, au lieu de rentrer justement dans ce conflit des chefs, est partie. Elle s'est exilée d'elle-même. Elle n'a pas voulu rentrer dans ce combat des chefs qui n'avait pas beaucoup d'amplitude et de spiritualité.
Ah, mais c'est tout à fait intéressant. Je crois que c'est bien aussi que tu es...
Ah ben dans le livre, c'est indiqué de ça.
Oui, c'est indiqué. Mais alors, tu as à la fois, tu accompagnes le lecteur dans une vision chrétienne, généreuse, tolérante, mais en même temps, tu abordes ces questions.
C'est normal.
Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt, sont plutôt des milieux un peu ésotériques, bizarroïdes, etc. Bon, tu connais le département de l'Aude avec Rennes-le-Château, etc. Des courants un peu bizarres qui vont valoriser tout ce qui serait mystérieux autour du gnosticisme, etc. Et on ajoute légende à légende. Ouais. Et puis, les églises qui redeviendraient très conservatrices. Alors, je trouve intéressant que tu es un chrétien classique, modéré, spiritualiste, mais en même temps, tu montres que à l'origine du christianisme, il y a peut-être plusieurs courants.
Alors, je rappelle qu'un théologien assez connu, Margaret, a écrit, il n'y a pas longtemps, un petit livre qui s'appelle « À l'aube du christianisme, une étrange diversité ».
Et oui.
Bon, mais ça, apparemment, aujourd'hui, personne n'y accorde une importance réelle. On pense surtout à l'unité de l'Église, etc. J'ajoute comme ceci. Je comprends très bien. Lorsqu'un groupe social, religieux ou pas, je pense ici, par exemple, à la crise qu'a connue le Parti communiste.
Oui.
Bon, lorsqu'un groupe social est en crise importante, il y a deux réactions qu'on peut comprendre. Il y a les classiques qui disent il faut s'accrocher coûte que coûte à nos dogmes parce que sinon tout fout le camp.
L'unité.
Voilà. Et d'autres qui, au contraire, disent si on veut que notre mouvement ait un peu d'avenir, il faut ouvrir les fenêtres. Ouvrir les fenêtres et laisser rentrer l'air de l'extérieur.
Ouais, ouais.
Bon, voilà. Donc je comprends. Et je comprends que nos églises catholiques et protestantes, qui n'ont pas énormément le vent en poupe, il faut être réaliste, qu'il y ait ces deux réactions dedans. Et personnellement, bon.
Mais tu as tout à fait raison, parce que je pense qu'au contraire, Jésus, on retrouve une certaine crédibilité autour de Jésus, si on le considère dans cette époque historique où c'est normal qu'il y ait eu plusieurs courants.
Voilà.
Et que voilà. Alors donc maintenant, tu nous dis, on retourne à Jésus, son enseignement.
J'incite à ce que, mais je ne suis pas dupe, et je sais que le courant dominant qui est institutionnel est difficile à faire bouger.
Je ne suis pas
naïf.
Oui. Alors j'aime bien, par exemple, dans ton ouvrage, tu présentes aussi Jésus qui a une spiritualité d'ouverture.
Ouais.
Et en fait, tu dis aussi, alors avec des termes, on pourrait te reprocher des anachronismes, mais moi je trouve que ce sont des anachronismes plaisants et qui ouvrent des portes. Et tu dis qu'il serait dualiste dans un certain sens, parce que pour lui, il n'insiste pas tellement sur la toute-puissance, sur la volonté de Dieu, etc.
Et
existentialiste. Alors que c'est pas normalement l'existentialisme, ça serait le 20e siècle. Eh bien non. Et je pense que tu as raison de dire ça.
Alors, non seulement, je pense qu'il est existentialiste, je pense, et peut-être si j'ai encore le temps d'écrire un livre, ce sera peut-être celui-là, sur le pluralisme. Je suis persuadé que la racine, la base du pluralisme, qui est aujourd'hui une notion qui n'est pas forcément que religieuse, bon, que la base, c'est l'enseignement de Jésus. Mais autrefois, on vivait autour de son clocher. On n'avait pas une vue planétaire des choses.
Oui.
On vivait autour de son clocher, donc on faisait du bien à son prochain tout près. Mais aujourd'hui, la notion d'amour du prochain dépasse simplement le court temps. Voilà. Bon, voilà.
Très bien.
Est-ce que, avant peut-être de conclure, est-ce que je peux dire deux mots pour dire si quelqu'un est intéressé par ce livre, comment on peut se le procurer ?
Oui, tout à fait, oui.
Alors, bon, donc le livre s'appelle « Jésus avant tout ». Si quelqu'un le souhaite, soit que je le rencontre pour lui remettre, ou que je lui envoie par la poste comme il veut, il suffit de me téléphoner, je donne donc mon numéro de téléphone, on m'appelle si on veut un exemplaire du livre, et après je vois avec la personne comment elle veut l'acquérir.
D'accord.
Alors mon téléphone, c'est mon nom c'est Ruf, R-U-2-F, mon numéro de téléphone c'est les 06-20 et ensuite 06-22-20, je répète 06-20-06-22-20. Le livre vaut 16 euros et ceux qui voudraient, c'est pas obligatoire, que je leur envoie par la poste, il faudrait rajouter 5 euros pour les frais d'envoi.
Voilà, très bien. Bon, voilà, mais écoute, c'est une bonne idée. Tu as aussi cité, on va terminer, mais tu as cité aussi plusieurs théologiens, donc Renan, et les protestants ont beaucoup aimé Renan, les protestants libéraux.
La vie de Jésus de Renan, c'est pas rien.
Et oui. Tu as cité Wagner parce que tu as écrit un livre sur ton prédécesseur à Paris dans cette
oui,
paroisse.
Oui, et puis je pense qu'il apporte quelque chose de très important. C'est cette conjonction entre la mystique
oui.
et la pensée libérale.
Et la pensée libérale, oui.
Parce
oui,
que,
oui.
alors que les mystiques et les chrétiens libéraux sont en bis-bis.
Oui.
Les mystiques, c'est tout de quoi on n'aime pas les libéraux, et les protestants libéraux n'aiment pas les mystiques.
Oui, on dit alors.
Et lui essaye au contraire d'unir voilà. les deux.
Ah oui, oui.
D'associer les deux.
D'ailleurs, qu'il y a une critique libérale, mais qui est positive et généreuse ben avec, voilà. avec Charles Wagner et avec toi aussi. Mais puis, et tu cites Élie Loriol, qui a été pasteur à Nîmes ouais. et à Paris après.
Alors, c'est d'autant plus curieux que Loriol n'a pas. Oh, il a écrit des petites choses. C'était un grand orateur,
oui.
bien qu'il fût bègue.
Ben oui,
être orateur sais. Lorsqu'on est bègue, c'est pas rien. Bon, c'était un grand orateur, il était pasteur à Nîmes, il fut connu ici. Et il avait des mots d'esprit. Alors, la phrase que je cite de lui, c'est à peu de choses près, il a fallu lutter contre l'Église pour retrouver le message de Jésus.
Oui.
Peut-être faudra-t-il un jour lutter contre Jésus-Christ
ah, oui.
pour retrouver le message de Jésus.
Ah, oui,
c'est
oui,
quand même
oui,
pas
oui.
rien comme phrase.
Oui,
hein.
oui. De retrouver le Jésus homme, le Jésus prophète, le Jésus qui
voilà.
s'est exprimé. Quoi. Oui, oui,
voilà.
tout à fait. Ah, ben, je te remercie beaucoup.
Ben non, ça me dit
et bien. Merci pour, surtout pour tes ouvrages et ton dernier livre, Jésus avant tout. Merci oui. Pierre-Jean Ruff.
Ben non.
À bientôt.
À bientôt et merci à vous.